littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Histoire des luttes sociales. Sandrine Carion, Ludivine Bantigny, Sylvie Alouche, Katia Lanerosa-Mora. Modération, Hugo Bellagamba.
Et merci à tous d'être aux Utopiales si nombreux. On va parler des luttes sociales avec mes invités. La chanson que vous avez entendue, c'est évidemment Patti Smith, People of the Power. C'était pour mes invités, c'était la petite surprise que je leur avais réservée. Et puis pour vous aussi, pour vous mettre dans l'ambiance des luttes sociales, qui ne sont pas tout à fait le même sujet que celui qui vient d'être abordé sur cette scène, mais qui, évidemment, a des liens, et vous allez voir, on va développer ces liens entre la science-fiction, entre l'imaginaire et les luttes sociales depuis toujours. On pourrait même remonter à l'Antiquité, mais je vous promets, on va pas le faire a priori. Alors, je vous présente donc mes quatre invités, en commençant par tout à fait en face de moi, Katia donc Lanerosa-Mora. Bienvenue.
Bonjour.
Katia, première fois aux Utopiales en plus. Merci. Voilà, autrice de La Machine.
Merci, super accueil.
Un roman voilà, qui s'inspire de la Révolution d'Espagne dont elle va nous parler. À côté, Sandrine Carion, qu'on peut applaudir aussi. Voilà. Bonjour. Artiste, auteur notamment de Mon rond-point dans ta gueule, mais pas uniquement, hein, dont on va aussi parler. Elle revient sur l'expérience des Gilets jaunes. Et je la remercie aussi très chaleureusement d'être là. À côté de Sandrine, Sylvie Alouche, philosophe, formée à l'École normale supérieure, enseignante aujourd'hui, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon. Voilà, et qui est une grande spécialiste de l'histoire de la science-fiction, qui a organisé des tas de journées d'études sur l'histoire de la SF. Et juste à côté de moi, Ludivine Bantigny, qu'on applaudit également, voilà, universitaire qui est également donc Université de Rouen, mais qui maintenant enseigne dans le secondaire, par choix, elle nous l'expliquera, spécialiste de l'étude des crises, sociales, en particulier mai 68, la Commune de Paris, et bien d'autres éléments dont elle nous parlera aussi. Je vous remercie infiniment à toutes les quatre d'être ici pour évoquer, bien sûr, les liens entre l'imaginaire et la société. Et je crois que maintenant, aux Utopiales, on prêche des convaincus, entre guillemets. Tout le monde est bien conscient que la science-fiction s'intéresse à la société. Elle s'intéresse aux crises de la société, aux éléments déclencheurs de ces crises, aux significations identitaires, politiques, parfois philosophiques même de ces crises. Et c'est ce qu'on va essayer de développer avec mes quatre intervenantes. Alors, pour commencer, je vais peut-être donner la parole à Sylvie, en tant que spécialiste de l'histoire de la SF, et en tant que philosophe. Sylvie, pour toi, quel est le lien fondamental entre les sociétés en crise, les luttes sociales, les manifestations, les revendications, voire les insurrections, on peut même aller jusqu'aux révolutions, et ce que l'on trouve en science-fiction? Est-ce que la science-fiction a, en tant que littérature, un appétit particulier pour la crise, pour la lutte sociale?
Bonjour à tous, merci Hugo. Alors avant de commencer, je voudrais signaler que je suis là. Alors c'est vrai que je suis maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, mais en fait je me retrouve ici parce qu'on a un partenariat en tant que plateforme éthique avec l'ANR Métagénopolis de l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale, je crois, et vous trouverez un stand voilà, à ma gauche.
Juste
donc
là.
Je voulais au moins mentionner ça. Donc ce projet de recherche porte sur le microbiote, notamment le microbiote intestinal. Et voilà, donc ce n'est pas forcément tout de suite en rapport avec ce que je veux dire, quoique il y a la question éventuellement des analogies entre le monde du vivant et les relations entre vivants et le monde politique, voilà, qui pourrait avoir éventuellement qui pourrait constituer un élément de comparaison. Alors maintenant, pour répondre, pour essayer de répondre à la question de Hugo, disons que je pense qu'il y a deux façons de prendre les choses. Disons, il y a une première, quand j'ai écouté ta question, j'ai essayé de me récapituler très très vite l'histoire des luttes sociales depuis l'Antiquité pour voir quel rapport il pouvait y avoir avec la science-fiction. Alors forcément, a priori, il n'y en a pas tant que ça, parce que la science-fiction comme littérature, ça apparaît, disons, on fait remonter parfois la science-fiction à Mary Shelley, donc début du 19e siècle avec Frankenstein, mais ça reste quand même un événement un petit peu unique, et c'est surtout à la fin du 19e et au début du 20e que la science-fiction comme genre, avec plusieurs auteurs, un certain nombre de canons apparaît, et donc du coup il y a quand même derrière 20-25 siècles, voire plus d'histoire et d'histoire des luttes sociales qui n'ont pas été associées à la science-fiction. Alors après, on peut quand même se demander, est-ce que s'il n'y avait pas le genre littéraire de la science-fiction, est-ce qu'il n'y avait pas des genres apparentés comme le genre de l'utopie, par exemple, ou le genre de la construction politique imaginaire. Alors, cela dit, je laisserai peut-être de côté, si on ne me relance pas en tout cas, cette question, disons, sur la préhistoire de la science-fiction, pour m'en tenir déjà au siècle de science-fiction dont on peut parler. Et donc, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Alors déjà, il y a dans la science-fiction, évidemment, des représentations dans de nombreux ouvrages de lutte sociale. Hein, alors il y a quelque chose même de toute façon qui est un petit peu constitutif au genre romanesque au sens large. Hein. On dit souvent que tout roman est un roman d'éducation, hein, que ce soit les romans de Balzac, les romans de Zola. Hein, il y a toujours en fait quelque part l'histoire d'un individu qui va se retrouver qui part d'une situation sociale donnée, qui entre dans la société, qui bataille, qui a des succès, qui a des échecs et qui finalement progresse. Alors, il est vrai que la science-fiction par rapport à ça, me semble-t-il, a quelque chose de spécifique et qui explique notamment pourquoi moi je m'y intéresse depuis, disons, depuis le collège. C'est que, à mon sens, dans la plupart du temps, les œuvres de science-fiction se distinguent des œuvres dites de littérature générale, en fait parce qu'elles ont une dimension politique. Même si vous regardez un objet dont le statut de science-fiction est souvent contesté, comme Star Wars, en fait, Star Wars sans politique, il y a quasiment rien. En fait, c'est de part en part une histoire politique avec d'autres éléments, mais c'est d'abord une histoire politique qui mime notamment l'histoire de l'Empire romain. Et donc c'est cette dimension politique, elle est fondamentale, parce que pour moi, vraiment la question qui guide la science-fiction en général, c'est que va-t-il advenir de l'humanité, de nous comme collectivité? Et la table ronde précédente qui parlait d'épidémie, le fléau, elle en était tout à fait un exemple. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant dans la science-fiction par rapport à la tradition du roman, disons plus traditionnel, plus psychologique et disons plus nombriliste, c'est qu'on se pose le plus souvent les questions avec the big picture, sur qu'en est-il pour l'humanité tout entière si telle technologie apparaît si telle ou telle réforme des relations sociales ou politiques apparaît. Alors maintenant, donc, en fait, je pense qu'on pourrait regarder dans quasiment tous les romans les œuvres de science-fiction au sens large, audiovisuel, cinéma, séries, et on trouverait, peut-être pas absolument dans tous, mais dans de très nombreux parmi eux, des éléments de lutte sociale. Alors, je pourrais en donner quelques exemples.
Oui, vas-y.
Alors, il y a par exemple, on n'y pense pas forcément tout de suite, mais là, je l'avais récemment en tête, un des très, très grands classiques, vous avez Isaac Asimov, la série des robots, et en particulier le premier volume, Les cavernes d'acier. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont lu. En fait, il y a un élément, alors c'est une histoire de policière essentiellement, avec un élément technologique crucial qui est donc les robots. Mais en fait, il y a un élément hyper important de l'histoire et sans lequel il n'y aurait pas d'intrigue, c'est qu'il y a un mouvement social Alors qu'on pourrait considérer réactionnaire, mais c'est pas parce que c'est réactionnaire que ça rentre pas dans le chapeau lutte sociale, qui s'appelle les médiévalistes. Et ils ont, enfin bon, après le détail est peut-être pas très important, mais c'est, disons, un mouvement social parmi les gens qui vivent sur Terre à ce moment-là, sachant qu'il y a aussi les Spatiens qui vivent ailleurs que sur Terre et qui s'intéressent à la Terre. À la façon dont les humains vivaient autrefois, l'autrefois étant en gros notre époque, hein, puisque c'est un roman qui se passe dans le futur. Voilà. Donc même dans un roman qui a priori ne porte absolument pas sur les luttes sociales, on a un élément comme ça. Alors je citais Star Wars tout à l'heure. Hein, donc évidemment, Star Wars, la question des luttes sociales est centrale, puisque vous avez tout le mouvement de la résistance, hein, qui est, voilà, auquel appartiennent la plupart des héros, qui est un mouvement de lutte sociale au sens, disons, c'est vrai que je n'ai pas pris le soin de définir, je pense qu'on a tous une intuition de ce que c'est qu'une lutte sociale, alors bon, je ne sais pas si, peut-être que Ludivine sera plus à même de le définir plus précisément, puisqu'elle a vraiment travaillé sur le sujet, mais disons qu'instinctivement, je pense qu'on peut dire qu'une lutte sociale, c'est, voilà, il y a un pouvoir en place, et puis il y a des gens qui, au niveau de la base, du peuple, se joignent leurs forces parce qu'ils trouvent qu'il y a des injustices et qu'il va falloir unir ses forces pour pouvoir essayer de renverser le pouvoir ou en tout cas de faire avancer un certain nombre de réformes. Et comme c'est expliqué, je pense, dans l'argumentaire de la table ronde, c'est un grand mystère, et moi, c'est une question que je me pose tout le temps et qui s'est aussi posée, notamment avec les gilets jaunes. Je sais que on va en parler aussi. Qu'est-ce qui fait ? Il y a des gens qui souffrent beaucoup en permanence dans les sociétés. Il y a toujours des injustices, il y a des dominés, il y a des dominants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça cristallise et puis que les gens, à un moment, alors que ça fait des dizaines d'années qu'ils subissent, se disent, bon, bah, maintenant, ça suffit, je vais croire qu'il est possible que le monde soit différent, je vais croire qu'il est possible de faire quelque chose en m'associant à d'autres, et je vais structurer de façon plus ou moins élaborée, je vais participer, je vais prendre sur mon temps, je vais prendre sur mon énergie, je vais prendre sur ma vie de famille, sur les petits plaisirs qui me restaient dans la vie, pour consacrer du temps à quelque chose qui peut être parfois pénible, épuisant, pour essayer peut-être de changer le monde. Voilà, donc, dans la science-fiction, j'aurais peut-être d'autres exemples qui viendront. Alors évidemment, il y a tous ces romans aussi très à la mode qui sont sortis récemment, comme Hunger Games. Hein, donc moi, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films.
Les adaptations.
Voilà, les adaptations. Et voilà, là aussi, bah, c'est d'ailleurs, c'est Hunger Games. On peut avoir un peu de mépris pour cet ersatz de dystopie, etc. Mais je trouve que, en fait, du point de vue de la question qui nous intéresse, ça pose vraiment la question de façon intéressante.
Faut que m'arrête, on va faire un petit sondage. Juste, ceux qui ont lu Les Cavernes d'acier d'Isaac Asimov, levez la main. Ouais. Pas mal. Ceux qui ont vu Hunger Games, levez la main. Ah. Beaucoup plus, hein, quand même. Ouais. Une question aussi de référence qui évolue avec le temps.
Il y aurait donc plein d'autres exemples.
Rapidement, parce que sinon, on ne va jamais... Oui. Voilà. Vas-y.
Non, alors, deuxième chose quand même très importante, c'est que donc, la science-fiction peut représenter les luttes sociales, mais il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il y a certains auteurs qui disent que la science-fiction est un outil de lutte sociale. Mmh. Hein, et là, je pense en particulier, peut-être qu'on en reparlera, à une philosophe américaine qui s'appelle Donna Haraway.
Bien sûr.
Qui, à la fin des années 80, écrit un manifeste, donc on appelle le Cyborg Manifesto, hein, qui est résumé en gros par sa dernière phrase, où elle dit en anglais « I'd rather be a cyborg than a goddess », hein, « je préférerais être un cyborg qu'une déesse ». Et alors le propos est en fait assez compliqué à saisir parce que c'est un texte écrit dans une langue en partie hermétique, mais et il y a eu en fait même beaucoup de malentendus sur son propos. Mais le point très important qui moi m'a intéressé, c'est qu'un, elle dit la science-fiction m'a inspiré moi ce que je suis en train de vous raconter, et la science-fiction doit nous inspirer et doit notamment inspirer les féministes. les femmes qui souhaitent se libérer d'un certain nombre de contraintes culturelles. Et elle a donné naissance, avec et sans malentendu, à un mouvement qui s'appelle le cyberféminisme, et qui essaye de développer un féminisme qui prend en compte l'évolution technologique. Voilà. Donc, comme on me dit d'abréger, j'arrête.
Merci Sylvie. Merci Sylvie. Elle pourrait continuer à vous expliquer toute l'évolution. Mais en tout cas, ce qu'elle a dit est très, très clair. Hein. Les deux éléments, la présence des luttes sociales dans la science-fiction et la science-fiction en tant qu'élément de lutte sociale. Et puis, on parlera de la convergence des luttes aussi avec Ludivine, sans doute tout à l'heure, et probablement avec Sandrine également. Je me tourne pour l'instant donc vers Katia. Et je vais afficher, je vous ai préparé une petite image avec vos différentes œuvres à toutes les trois. Alors, Katia, autrice de La Machine, qui s'inspire, donc qui est un récit évidemment d'imaginaire, une fiction entre la fantasy et la science-fiction, tu vas nous l'expliquer, et qui s'inspire donc de la Révolution espagnole, de l'impact de la Révolution espagnole, et je voudrais que tu nous expliques comment cette révolution t'a inspiré, pour quelles raisons tu as écrit ce roman, et comment tu as transcrit cette lutte sociale dans La Machine. Merci.
Alors, le projet de La Machine est peut-être l'aboutissement d'un long questionnement personnel que j'ai commencé, une question que je me suis posée quand j'étais enfant. Comment est-ce que ça se fait qu'à la maison on parle espagnol ? Nous sommes espagnols, nous parlons français parce que nous sommes en Belgique, mais nous ne parlons pas le belge, ça n'existe pas sans qu'on soit en France. Donc moi j'avais une connaissance, de la micro-histoire. Je savais qu'il y avait tout ce melting pot de communautés, de cultures à un niveau très très précis, comme ce qui est servi à table, dans quelle langue on fait la berceuse avant d'aller au lit. Et c'est en grandissant, en fait, parce qu'on ne parlait pas politique du tout dans ma famille, c'est vraiment en grandissant que j'ai commencé à vouloir rattacher les petites anecdotes qu'on me racontait. Tu sais, ta grand-mère, quand elle était en Asturie, elle était la première à frapper une brique dans une vitre d'une réserve parce que les franquistes ne voulaient pas utiliser les tickets de rationnement pour nourrir ses enfants. Et je me disais, ok, franco, franquiste, l'Espagne, mais en gros, je ne pouvais pas le rattacher à l'histoire avec un grand H. Et donc j'ai commencé mes recherches. Parce qu'on ne parlait pas de politique, on ne parlait pas de cette époque-là, à part la vie de tous les jours. Ma maman m'a vraiment ouverte à ces questions-là. Et c'est un long cheminement où je me suis intéressée à la guerre d'Espagne, à la Révolution, à la guerre d'Espagne, à comprendre les Asturies, l'Extrémadure, ce qui s'était passé, dans quelles conditions ces ouvriers, ces paysans vivaient, puisque moi, je viens vraiment... Mes grands-parents étaient mineurs et paysans, et la génération d'avant aussi. Et tout ça a commencé à bouillonner. Moi, je suis autrice de romans d'imaginaire, donc souvent on me dit, mais tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un récit historique ? Pourquoi tu n'as pas écrit un roman historique sur ta famille ? C'est parce que je ne suis pas historienne et je me serais cachée derrière la documentation avant d'écrire une ligne. Et surtout parce que j'avais envie de passer au tamis, en fait, tout ce que je sentais de la Révolution espagnole, de la tentative du coup d'État et de la guerre civile, et de la dictature, à une question, et donc c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu as dit précédemment, c'est que j'avais besoin de prendre de la hauteur et de regarder un petit peu la société espagnole, mais évidemment je l'ai consolidée après avoir commencé à travailler sur La Machine, en me disant, mais tiens, je vais écrire un roman où en fait ça va être deux personnages, et je vais prendre le terme générique de guerre civile, le synonyme le plus connu c'est guerre fratricide, et je vais en fait mettre en scène deux frères qui ont été élevés dans la même famille, qui en plus est une famille qui vient d'être anoblie par le roi et qui a des origines plutôt populaires, et qui vont devoir faire des choix, prendre position dans le conflit qui est en train d'envahir mon Espagne fantasmée, parce que j'ai eu besoin de créer un pays imaginaire pour pouvoir y placer mes personnages, pour traverser en fait la question et l'histoire de manière émotionnelle, rattacher le lecteur à ce qu'il puisse suivre des dilemmes, des conflits et une série de personnages qui se posent la question. Au final, si je résume grandement, tiens, et c'est ma question thématique, est-ce que nous, en tant que société, nous pouvons enfin nous autogérer, penser le bien commun, être responsables les uns envers les autres, avoir plus d'égalité, prendre des décisions collectives, Ou bien, le camp d'en face, non, il faut un père, un dieu, un roi qui va, infantiliser son peuple en disant « moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Et dans la machine, tous les personnages se positionnent autour de cette question. Et évidemment, il y a beaucoup de péripéties, d'aventures, parce que même si ces deux frères sont opposés idéologiquement, ils se vouent une affection et un amour tels qu'on ne peut avoir que dans une... Enfin, j'espère que c'est le cas pour vous, c'est pas dans le cas dans toutes les familles, dans une fratrie, en fait. C'est ce qui reste du noyau de l'enfance, c'est son frère, c'est sa sœur. Eh bien, que se passerait-il, au fond, si au bout du fusil, pétri de tous nos idéaux, on avait notre frère ou notre sœur? Voilà ce que raconte la machine, si je peux.
Très bien dit, merci, avec beaucoup d'émotion. Est-ce que le livre a eu un impact, alors je ne parle pas de l'impact médiatique et des lecteurs et des lectrices, mais sur ta famille et le rapport que vous avez en famille à l'Espagne à cette période-là? Est-ce que ça a joué le rôle de décantation, de libération de la parole, de prise de conscience, d'envie d'en connaître plus, etc. autour de
oui,
toi?
Oui, exactement, parce que j'ai fait quand même des recherches. Les personnages principaux ne sont pas inspirés de personnes réelles, c'est vraiment les personnifications de la question thématique. Mais par contre, quasiment tous les personnages secondaires relèvent de figures familiales que j'ai connues ou que je n'ai pas connues. Et ça a donné envie d'aller plus loin. Ma grand-mère, qui heureusement est toujours en vie et lucide, et voilà, très. Elle a grandi dans. Elle est fille de communiste et elle a grandi dans un pensionnat franquiste. Donc autant dire qu'au point de vue caractère, c'est une femme extraordinairement forte. Je finis toujours par parler de ma grand-mère quand je parle de la machine, c'est terrible. Mais elle, du coup, quand je cherchais de la documentation, etc., il y a des choses qu'elle n'a dites qu'à moi, par exemple, et qu'à ma mère, mais pas à ses 5 autres enfants ou à ses autres petits-enfants. Ce que je remarque aussi, c'est que dans le milieu francophone de l'imaginaire, il y a beaucoup de personnes du coup, qui viennent me voir ensuite et qui disent « mais du coup, j'ai envie de me renseigner sur la guerre d'Espagne ». On ne sait pas, en fait, au final, on ne l'étudie pas à l'école, alors que pour moi, c'est vraiment un conflit sempiternel, malheureusement, où en fait, il y a vraiment deux parties de la société qui s'affrontent. Et au final, la seule chose qui reste pour tenir bon, c'est l'espoir. Et donc, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'espoir? C'est dans ce vortex-là que je navigue. J'écris le tome 2 pour le moment. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Donc on voit à quel point aussi, ça peut être intimiste, la question de la lutte sociale. Merci vraiment pour cette présentation très, très incarnée. Je me tourne vers Ludivine, donc, qui est autrice, qui a fait son habilitation à diriger les recherches sur mai 68, les relectures, les dénaturations, les interprétations, les représentations de mai 68. Vous l'avez à l'écran. Oui, Ludivine, alors effectivement, voilà, on a une présentation qui va basculer, voilà. Donc je te laisse la parole pour nous parler de cet héritage-là, et puis le lien que ça a avec l'imaginaire aussi de la science-fiction, les littératures de l'imaginaire, est-ce que, voilà, comment mai 68 se met en syntonie ou en opposition avec l'imaginaire des luttes sociales? Merci.
Merci beaucoup, merci Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Non, moi, je vais aller dans le sens de ce que vient de dire Katia à propos de la Révolution espagnole et de la guerre civile, guerre fratricide, au sens du protagonisme, en fait. Voilà, c'est ce que tu décris à l'instant, ce sont des femmes et des hommes ordinaires qui sont plongés dans le tourbillon de l'histoire et donc la force justement de ce protagonisme et qui est bien sûr une clé essentielle pour la littérature. Et pour commencer à évoquer, alors moi je vais surtout parler de 1968, mais peut-être que ce soir, puisqu'on va rediscuter de tout ça à 18h30 avec toi Hugo, on pourra parler d'autres mobilisations sociales en lien avec la littérature. Je voulais parler d'une petite nouvelle de science-fiction d'Enrique Villamatas, que vous voyez ici. Alors, comment il faut faire pour... Voilà. Et donc, il imagine une société après le cataclysme, après une forme d'apocalypse, et donc il y aurait des survivants. Et voilà ce qu'il écrit notamment à Cadaqués, ville légendaire située sur la côte sud française, dans le port de laquelle, Port Ligat, il y avait, paraît-il, l'une des 7 merveilles du monde, la statue d'un étudiant levant le poing, statue érigée pour célébrer la révolution de mai 68. On ne sait pas si cette statue de l'étudiant au point levé, Hercule C. Bendit, tel est son nom, paraît-il, a réellement existé. Voilà, donc en fait, c'est un imaginaire d'une société qui était complètement détruite et il reste que quelques traces, justement, de ce qui avait pu se passer dans des luttes sociales ou des révolutions sociales. Et donc, on a juste des fragments et il faut reconstituer ce puzzle. Et c'est ça aussi la littérature de science-fiction par rapport aux luttes sociales. Et donc, une interrogation qui fait se demander justement ce qu'est une lutte sociale. Donc, il poursuit. De quel type de révolution pouvait-il s'agir ? Mon roi, et donc ça c'est celui qui est le guide du musée, mon roi n'en sait rien, personne ne le sait. Et un étudiant qui lève le poing ne signifie pour nous que ceci, un étudiant levait le poing, c'est tout. Les spéculations faites au sujet de la révolution et du poing se réduisent à ce jour à elles-mêmes. Je crains qu'on ne sache jamais ce que fut mai 68 et si cette révolution appartenait à la culture française ou, comme certains le soupçonnent, à la civilisation chinoise. Donc c'est en fait essayer par une nouvelle de science-fiction de rendre mystérieuse une lutte sociale supposément très lointaine. Et c'est aussi finalement une sorte de dystopie où tout aurait disparu et où on ne comprendrait plus dès lors les événements sociaux et notamment les luttes dont on parle. Moi, ce que je voulais dire à ce sujet dans le cadre de cette table ronde, c'est que, au fond, je trouve que le discours médiatique et journalistique sur 68, ce qu'on en retient en général, c'est un peu ça. C'est un peu comme, voilà, mais finalement, qu'est-ce qui reste ? Il resterait un certain C. Bendit, on ne sait plus très bien qui c'est, comme une statue héroïque. Et ça, ça me paraît très problématique parce que ça efface, en quelque sorte, la densité de l'événement. Alors que, justement, la littérature, et notamment la littérature de science-fiction, mais peut nous dire, notamment avec la poésie, ce qu'a été la signification même de cette lutte sociale, de cette grève qui a été une sorte de grève générale avec 10 millions de personnes qui se sont mobilisées. Et en particulier, ce que dit l'écrivaine Leslie Kaplan à ce sujet, on quittait sa cage, on refusait la catégorie, la case et le cas. On voulait être autre chose qu'une fonction de production. Donc l'idée d'une échappée, la littérature justement de science-fiction peut rendre compte de cette échappée par la liberté, par l'émancipation, hein, par la dignité aussi que tu as décrite pour la guerre d'Espagne. Alors voilà, 68, c'est tout ça que la littérature nous dit, notamment, alors j'aime beaucoup ce texte, on ne va pas lire en entier là parce que ça serait trop long, mais faire surgir des mots qui définissent l'éclat de 68. Donc Serge Velay, qui est un auteur, aussi un poète, qui a beaucoup fictionné aussi sur 68, une impatience, une exigence, un pur élan, un refus, un mouvement souverain, une surprise émerveillée, un état d'ébullition, une intensité, une effervescence, une hardiesse, etc. Voilà, un espace nouveau. Donc l'idée d'une nouveauté, en fait, à l'œuvre, une sorte d'irruption en fait d'inconnu, hein, et ça qui s'est un peu inspiré de ce que disait Rimbaud, changer la vie, il faut changer la vie. Rimbaud disait notamment les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles, et donc comment la littérature peut-elle justement parler de ces formes nouvelles. Moi, je voulais en quelques mots, et pour être assez brève, hein, justement, rendre compte aussi de cette effervescence de 68, parce que, comme le dit Villa Matas dans sa nouvelle de science-fiction, si on réduit 68 au fameux C. Bendit, alors on n'a pas, justement, toutes ces femmes et tous ces hommes dont tu parles, en fait, Katia, dans ce que tu dis sur la guerre d'Espagne, dans La Machine. C'est-à-dire, en fait, les images elles-mêmes qui deviennent quasiment des clichés d'imaginaire. Parce qu'avec une photographie comme celle-là, sur une barricade de 68, on a l'impression d'un général d'armée qui charge, voilà, et qui monte en combat. On peut justement se représenter une sorte de fiction d'un peuple, et là ça rejoint également ce que tu dis et puis ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure sur la lutte sociale. Voilà, une lutte sociale, c'est quand une population devient un peuple. Alors là, je voulais faire ce clin d'œil à Nantes, puisque justement la place royale de Nantes avait été rebaptisée en place du peuple. Donc il y a aussi une part presque poétique, il y a une sorte de poétique du politique en 68 quand on se réempare des lieux et on pose d'autres mots en fait sur ces lieux. Et on imagine justement une société alternative, une société utopique. Là, c'est toujours à Nantes, quand les agriculteurs aussi, parce que 68, c'est une lutte sociale qui mêle des catégories sociales extrêmement différentes. Donc là, les agriculteurs qui arrivent avec leur camion, avec leur tracteur, pardon, pour envahir les rues de Nantes. Quand je disais que finalement, il y a presque une fiction de 68 dans la mémoire médiatique, c'est parce qu'elle oublie justement en général tous ces gens pour réduire 68 à un mouvement étudiant du quartier latin et purement parisien. Donc moi, je voulais aussi vous montrer ces photographies-là de toutes sortes de métiers qui ont été représentés dans cette mobilisation, des ouvrières dans des usines, des gens voilà, qui réinventaient en fait une forme d'utopie sociale et notamment la place des femmes, qui s'installent dans les lieux pour les métamorphoser. Donc il y a une très belle utopie littéraire, celle d'Emmanuel Dockès qui parle de tout ça dans Voyage en misarchie. C'est comment on imagine d'autres lieux, on se réapproprie les lieux en leur donnant aussi une fonction différente, comme l'ont fait les hommes et les femmes de 68 en occupant leur lieu de travail, ici des magasins, etc., et en leur donnant en fait une forme nouvelle dont le cinéma finalement a moins rendu compte quand il était fictionnel que les documentaires. Par exemple, il y a cet extraordinaire petit film tourné en juin 68 dans les usines Vonder de Saint-Ouen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette séquence, ça dure 10 minutes, mais c'est une jeune ouvrière, Josiane, qu'on voit ici, et qui dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle », en fait. Elle ne veut pas reprendre le travail. Et donc, en fait, c'est un surgissement par l'image de ce que symbolise vraiment cette échappée, cette forme de libération. C'est le cri aussi de cette jeune femme qui exprime toute la détresse et aussi la force de la mobilisation. Donc voilà, les images de 68, c'est aussi une manière de rendre l'humour de la période avec Ciné, là, qui représente De Gaulle, « Je n'ai jamais aimé les jeunes », ou ces gens qui, justement, vont créer à la fois de l'humour et de l'art pendant la mobilisation sociale elle-même. Par exemple, ici, on voit De Gaulle en train de faire du stop pour rentrer à colomber les deux églises. Et à cette époque, justement, l'art, la poésie, la littérature ont été très présentes. Par exemple, les ouvriers de chez Peugeot ont peint des fresques sur les murs de leur usine. Donc c'est se réapproprier aussi une capacité créatrice, une capacité d'imagination, y compris quand des artistes, des danseuses et des danseurs, notamment ceux de l'Opéra de Paris, se mobilisent pour dire que voilà, il faut aussi que les artistes prennent une place dans la société. Et donc peut-être pour faire la transition avec ce que va expliquer Sandrine à propos des Gilets jaunes, moi ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la place de l'histoire. Alors c'est aussi une part de fiction finalement, oui, parce qu'on se réapproprie 1968 et 1789 et aussi en partie la Commune de Paris dans le mouvement des Gilets jaunes. Là comme vous voyez en fait, voilà, j'ai fait 68, je fais 2018 pendant le mouvement des Gilets jaunes. Cette manière de citer, en fait, de faire réapparaître 68 par des citations visuelles, graphiques, tout un imaginaire en fait qui est réactivé ici, comme voilà les affiches de 68, presse ne pas avaler, qui deviennent désormais BFM TV ne pas avaler, ou alors la fameuse affiche de 68 en juin contre les élections, les fameuses élections piège à con ou piège à mouton, retour à la normale, et donc une banderole des gilets jaunes ici à Bordeaux qui nous dit pas de retour à la normale, ou aussi hein, cet esprit un peu situationniste, un peu de l'imaginaire poétique des situationnistes en 68, qui ressurgit à la faveur d'autres luttes sociales comme celle des Gilets jaunes, par exemple ici. Donc on déclarera nos manifs quand ils déclareront leurs revenus. Voilà. Donc il y a aussi cet imaginaire qui est retravaillé de lutte sociale en lutte sociale et qui permet justement de l'incarner par des protagonistes et par des images de fiction.
Merci infiniment. On va tout de suite, puisque la transition est toute faite par Ludivine, servie sur un plateau, donc sur le regard que toi, Sandrine, tu as eu sur le mouvement des Gilets jaunes et la genèse de ton travail d'artiste. Alors, on a quelques images. Moi aussi, j'avais mis quelques images. J'en avais choisi quelques-unes. Merci à la technique. Et donc voilà, on peut commencer à les montrer et on t'écoute.
Alors c'est vrai que on m'entend bien, oui.
Voilà, c'est bon.
Alors c'est vrai que quelque chose qui est beaucoup revenu dans les interventions, je trouve, c'est la mémoire. Donc moi, ce qui m'a motivée pour créer ce projet, c'était vraiment de recueillir la mémoire des personnes qui ont lutté. C'était une sorte de mémoire de la lutte, parce que justement, j'avais un peu peur de ce qu'on retiendrait a posteriori du mouvement des Gilets jaunes, étant donné la façon dont on en parlait dans certains médias, la façon dont certains politiques en parlaient, j'avais un peu peur de ce qu'il en resterait. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, moi, d'aller recueillir des témoignages de personnes, en fait, de Gilets jaunes des Côtes d'Armor, donc en Bretagne. Donc c'est un projet que j'avais commencé en novembre 2018 et que j'ai effectué après sur une période de 2 ans où j'ai suivi les personnes sur la durée et j'ai mené des entretiens justement pour qu'ils expriment avec leurs propres mots comment ils avaient vécu le mouvement, leur vécu, et surtout ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce qui dans leur vécu avait pu les mener à entrer dans une lutte sociale et politique. Parce que c'était surtout ça qui m'intéressait, au-delà de leurs difficultés de la vie quotidienne qu'on connaît maintenant, qui ont été documentées. C'était vraiment ce qui, dans leur histoire, pourrait expliquer leur implication et surtout ce que ça changeait pour eux, voilà, à hauteur d'homme, en fait. C'était de redonner un visage humain, finalement, à cette lutte sociale.
Montrer les protagonistes, hein, comme on disait, oui, tout à l'heure, comme ça a été dit plusieurs fois. Et voilà. Est-ce que cet imaginaire de la lutte sociale, et c'est, finalement, en écoutant Ludivine tout à l'heure, on comprenait que s'il y a des luttes sociales dans l'imaginaire, comme on a dit avec Sylvie, il y a surtout beaucoup d'imaginaire dans la lutte sociale, dès le départ, dès les premières images, dès les premiers slogans, dès les premières relations, même journalistiques ou autres, on est déjà dans une construction de l'imaginaire. Est-ce que ça, tu l'as senti dans ton travail sur les témoignages que tu avais, que tu as réunis pour écrire Mon rond-point dans ta gueule?
L'imaginaire, c'est-à-dire l'imaginaire de la lutte, des luttes passées.
Voilà, est-ce que par exemple ceux qui, oui, qui confient à toi évoquaient souvent justement les luttes, comme l'a montré Ludivine, les luttes du passé, est-ce qu'ils faisaient des liens, des passerelles entre ces différentes
engagements? Pas tous, parce que effectivement il y avait quand même dans ce mouvement un certain nombre de personnes qui n'avaient pas cette culture, on va dire, de la lutte, qui connaissaient pas forcément les luttes du passé, et qui ont un peu découvert tout d'un bloc, qui ont dû d'ailleurs digérer tout ça, parce que c'était un peu compliqué. C'était un mouvement spontané à la base, c'était la difficulté. Donc il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de culture politique, qui n'avaient pas de culture de la lutte sociale, et qui ont complètement improvisé du jour au lendemain, et qui se sont pris ça en pleine face. Donc certaines personnes, du coup, au fil du mouvement, ont fini par commencer à s'intéresser justement aux luttes sociales du passé. Notamment, il y a une personne qui s'appelle Gilles dans le livre, parce que ce sont des témoignages de 9 ouais, personnes, voilà, qui m'a dit qu'en entrant dans le mouvement des Gilets jaunes, il avait commencé à s'intéresser justement aux luttes du passé, notamment la guerre d'Espagne, notamment la Commune. Voilà, toutes ces luttes auxquelles il ne s'était pas intéressé, et finalement sur lesquelles il ne connaissait peu de choses, via les Gilets jaunes, il a commencé à s'y intéresser, justement pour essayer de tirer les leçons du passé, justement pour essayer de comprendre et essayer peut-être de faire mieux et de réussir là où d'autres ont échoué, en fait.
J'ai une image aussi que j'aime beaucoup, oui, qui est là, oui, où tu parles de convergence, hein, tu dis toutes les luttes, alors... Tu l'écris, peut-être c'est quelqu'un qui te l'a dit, je ne sais pas, parmi les témoignages,
oui, en fait,
toutes les luttes se rejoignent.
En fait, ce sont, moi, j'ai fait que retranscrire les paroles des personnes. En fait, ce sont vraiment des portraits de 9 personnes, et je les laisse s'exprimer sur leur parcours, et c'est vraiment leur mot à eux, et c'est important pour moi aussi que ce soit leur mot à eux. Donc, effectivement, là, c'est le témoignage de Barbara, donc, en fait, qui me disait que... Alors, sachant que effectivement, les témoignages ont été recueillis entre novembre 2018 et avant le confinement du printemps 2020. Je me suis arrêtée à cette période-là qui, pour moi, elle marquait une autre étape sur laquelle je n'avais pas de recul, moi, à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, au moment où j'ai recueilli ce témoignage, elle m'avait dit ça, voilà, un petit peu au printemps 2020, au moment, justement, où il commençait à y avoir cette convergence avec... les syndicats, avec certains partis politiques, justement autour du mouvement contre la réforme des retraites. Mmh. où là, on va commencer à voir les gilets jaunes, les syndicats, les partis politiques, justement, enfin faire une réelle convergence à ce moment-là. Et aussi, il va commencer à y avoir une convergence avec certains mouvements écologistes. Voilà, tout ça a commencé un petit peu à converger. Et puis, le Covid a mis un arrêt un peu à tout ça. Donc, c'est ça que Barbara m'expliquait sur cette convergence justement, entre toutes ces luttes. Enfin, voilà, c'était ce fameux slogan que je ne me rappelle plus parce que je suis un petit peu impressionnée. Fin du monde, ouais. Même combat, voilà.
Merci. Je vois que tu voulais intervenir, Katia.
Je voulais juste rebondir.
Et après, on va prendre des questions. Après.
Que ce que je trouve vraiment formidable dans la démarche, dans ta démarche artistique et engagée, c'est qu'en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que pour ce qui est des dominants, il y a des archives, il y a des sources, c'était des personnes assez érudites ou qui pouvaient se permettre d'avoir des compilations, en fait, de leur histoire familiale, de l'histoire de leur entreprise, de l'histoire... Et qu'en fait, ces gens qui se battent, ces révolutionnaires, il faut chercher. Il faut, comme ton travail aussi, il faut aller chercher, recomposer, refaire le récit et avoir un devoir, effectivement, de donner la parole. Et je trouve la démarche de mon rond-point dans ta gueule extraordinaire.
Oui, c'était ça, c'était vraiment le principe, c'était vraiment de faire un travail de mémoire. Et les personnes le voyaient comme ça en me disant, c'est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à mes petits-enfants, à mes enfants. Pour leur expliquer justement ce mouvement, comment moi je l'ai vécu. C'était important qu'il y ait, que les gens s'expriment à travers leurs propres mots et à travers la bande dessinée. Je pense qu'il y a possibilité de retranscrire les choses différemment et de prendre du recul sur le réel aussi.
Voilà. Absolument, absolument. Sylvie, tu voulais intervenir avant que je lance les questions pour la salle?
Oui, parce que là, je voulais citer au moins deux autres œuvres qui, en plus, me sont posées. C'est de la publicité et ça pose vraiment des questions intéressantes. Il y a deux romans qui sont parus donc, ces dernières années, dont un qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et l'autre qui était finaliste au Grand Prix de l'Imaginaire. Et je suis membre du jury, donc c'est pour ça que je suis au courant. Enfin, non, ce n'est pas la seule raison, mais disons que c'est d'autant mieux dans ma mémoire, et qui parle de lutte sociale, en fait. Et ces deux romans, malheureusement, ils sont parus la même année, quoi. Mais il y a... Donc, le premier, c'est Les Furtifs d'Alain Damasio, qui met vraiment en scène, de façon extrêmement intéressante, les luttes sociales du futur. Et sinon, donc, vous avez la trilogie de Jean Barré, qui, je crois, est aux Utopiales.
Il est là, tout à fait.
Qui est peut-être même dans le public, sait-on jamais. Et donc, il y a Bonheur TM. Alors, c'est une trilogie, Vie TM et Mort TM qui vient de sortir. Et plus particulièrement, donc, Vie TM. Traite, à mains égards, d'un côté Damasio et de l'autre Jean Barré, en fait, traite d'une même problématique, c'est en gros, et ça qui doit vraiment nous interroger, c'est est-ce que les luttes sociales vont encore être possibles? Ça reprend finalement le thème, évidemment, de 1984 de George Orwell, mais plus que jamais, est-ce que les luttes sociales sont encore possibles ou seront encore possibles dans une société de surveillance généralisée et dans une société aussi de lavage de cerveau généralisé? Voilà, donc là, il y a vraiment une inquiétude à avoir. Et chacun, à leur façon, pose la question. Disons, l'un avec un versant plutôt optimiste et l'autre un versant plus pessimiste, pose cette question cruciale de façon extrêmement intéressante.
Merci, merci pour toutes ces références, pour tous ces témoignages. On voit bien, là finalement, ce matin, on disait justement avec Jean que la société et la science-fiction avaient tout à voir ensemble, le droit aussi, mais la lutte sociale et la société sont si... entrelacés, si intriqués, qu'effectivement la science-fiction ne peut que s'y pencher. Puis merci pour tes très belles citations que tu nous as données aussi, tout ce travail littéraire, où on voit bien la naissance de l'imaginaire tout de suite, au moment même finalement, où intervient la lutte sociale. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais promis un quart d'heure de questions, on a 10 minutes. Levez bien la main, vous avez un micro qui circule. Alors, des questions sur les luttes sociales ou des questions à nos invités, à nos intervenantes? Est-ce qu'il y en a? Sinon, c'est moi qui reprends la main. Oui. Vous avez eu chaud, monsieur. J'allais reprendre la main dans un dixième de seconde.
Je profite de la parole. Non, c'est juste, j'ai l'impression que dans la vision collective, dans l'histoire, les luttes sociales, on a l'impression de les résumer soit quelque chose de bien ou de mal. c'est-à-dire des résistants qui luttent contre un système autoritaire ou des méchants révolutionnaires qui mettent à mal notre confort quotidien. Et j'ai l'impression que vous avez parlé des histoires de personnes et que c'est un peu plus nuancé. Et pour autant, dans notre imaginaire et dans la vision de la collective, j'ai l'impression qu'on essaye de le résumer à quelque chose de bien ou de mal.
Manichéenne, la lutte sociale, l'étude de la lutte sociale, vous pensez ? C'est ce que vous dites, hein, on a un peu trop vu, voilà. Moi, j'ai pas eu l'impression, mais allez-y.
Apparemment, je vous laisse le temps de réfléchir. En tout cas, disons que moi, ce que je défends de façon générale, hein, puisque je suis philosophe, je ne sais pas si ça a été dit, oui, et disons que ma petite singularité, c'est que je travaille en philosophe avec des œuvres de fiction, parce que j'estime, et je pense que c'est en fait quelque chose que tout le monde perçoit instinctivement, qu'il se passe des choses philosophiquement intéressantes dans la fiction. Et notamment, à mon avis, ce que vous soulevez, c'est-à-dire que comme en général dans les fictions, on passe par le point de vue de personnages qui vivent des expériences et des luttes, on a une perception beaucoup plus nuancée des concepts en fait que quand on les aborde d'un point de vue uniquement argumentatif. Et alors, il est vrai, je pense, que les luttes sociales, on le sent sans doute, ne serait-ce qu'en en nous écoutant les uns les autres, on a en général un point de vue sur les luttes sociales, et on va dire qu'en général, quand on met en scène des luttes sociales, je dirais dans la plupart du temps, c'est quand même plutôt pour les mettre en valeur, pour défendre ces héros. Mais ce qui est quand même, je pense, intéressant, en tout cas moi, dans les œuvres... Dans les œuvres de fiction, notamment celles dont j'ai parlé, c'est que ce qui rend intéressant une fiction, c'est que les points de vue sont paradoxaux et qu'on met les personnages en tension. Et pour, dans les différents exemples que j'ai présentés, enfin y compris George Orwell que j'ai fait que évoquer très rapidement. C'est peut-être un peu moins le cas dans Star Wars, qui est vraiment très manichéen, hein, mais on a souvent en fait des personnages qui sont incertains. Et ce que je disais tout à l'heure sur Hunger Games, on a le cas qu'on retrouve d'ailleurs d'une autre façon dans Kaamelott. C'est pas de la science-fiction, mais bon, c'est de la fantasy, et c'est le même genre de problématique en fait. C'est des gens qui pourraient mener des luttes sociales, qui ont tout pour le faire, mais ils n'ont pas trop envie, quoi. Et puis ils veulent pas. Enfin, ils ont une part d'égocentrisme, d'égoïsme qui fait que. Enfin, voilà.
C'est la question des déclencheurs, moi, qui est fascinante aussi. Hein, dans ça, comment se déclenche ? On l'a esquissé au tout début, puis on n'y est pas. On n'a pas eu le temps d'y revenir. Katia ?
Mais oui, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument éviter dans La Machine. C'est pour ça que, j'ai décidé de mettre deux frères dans des camps opposés. Il y a un camp qui est plus facile à écrire qu'un autre, pour moi. Notamment parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toute une frange de la population qui ne voulait pas de cette révolution. Sinon, ça aurait été plié ainsi, on n'en parlait plus. Et j'avais à cœur de poser ma thématique, du coup, comme une question autour de laquelle chaque personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, se pose comme un échiquier, parce qu'au final, mes personnages sont très en prise avec leurs idéaux et la vie quotidienne, c'est-à-dire mon idéal, mes valeurs, et puis donner à manger à ma famille. J'ai pas de réponse à la question que vous avez posée, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai voulu éviter. Non pas pour qu'on puisse avoir un avis tranché, mais être dans les chaussures d'un peu tout le monde, tout en ayant son propre prisme et ses propres lunettes, et décider de s'attacher à tel ou tel personnage un peu plus qu'un autre.
Oui, la mise en tension entre les nécessités et l'engagement. Oui, Ludivine ?
Très rapidement, oui, je pense que vous avez raison de souligner plutôt la complexité des luttes sociales que le manichéisme. Après, je pense que dans ces luttes, il y a toujours, et le déclencheur, c'est souvent l'aspiration à la dignité, l'aspiration à la justice, à plus d'égalité, à une forme de démocratie réelle, etc. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas autrice de fiction, je suis historienne, mais quant à moi, je me dis que même si on peut bien faire son travail pour rendre compte de sa complexité, la complexité que vous évoquez, c'est difficile d'adopter une attitude supposément neutre. On va regarder ces gens comme un entomologiste observerait des insectes. parce que en fait on a besoin en fait de se sentir aux côtés de certains de ces protagonistes. Et donc autant je pense qu'il y a une objectivité par exemple du travail des sciences sociales et pour ce qui est de 68 en montrant aussi les contradictions qui imprègne le mouvement social. Par exemple, mai 68, c'est quand même un grand mouvement contre des formes de domination. Et en réalité, il y a d'autres formes de domination, par exemple la domination masculine qui se reproduit au sein même de l'événement. Mais pour autant, voilà, il me semble qu'on ne peut pas faire semblant d'être neutre, y compris... Alors, certainement pas dans la fiction, dans la science-fiction, mais pas non plus dans les sciences sociales. Parce que quand on est neutre, on se prétend tel, quand on se prétend tel, on est plutôt du côté du manche en général. Voilà. C'est jamais véritablement une neutralité. C'est pas véritablement assumé, mais c'est en général quand même un engagement idéologique.
Oui, il y a souvent une admiration hein, de l'auteur qui s'engage à décrire une lutte sociale et qui, malgré le fait qu'il est en train d'écrire, va quand même s'impliquer. Voilà. On le voit très souvent dans très nombreux textes. Je voudrais aussi en profiter, j'ai vu la question, on va la prendre. Juste, j'en profite, je suis heureux que tu aies cité Emmanuel Dockès, Voyage en Misarchie. Je connais bien moi sa maman, Nicole Dockès, qui est spécialiste de l'utopie. C'est un texte formidable, Voyage en Misarchie, absolument à étudier aussi. Pardon, monsieur, je vous en prie.
Bonjour. Est-ce que la société du loisir, du temps de cerveau disponible, pourrait venir à bout des luttes sociales?
Le risque de la disparition des luttes sociales.
Moi, je vais parler comme autrice et comme conseillère éditoriale dans la première chaîne publique belge au niveau des séries qui s'écrivent à l'intérieur de la maison. Je pense que c'est une place, la société du divertissement est une place pour infuser des messages et pour infuser des convictions à travers la fiction qui a un pouvoir qui vient toucher notre besoin d'enfants à qui on racontait des histoires avant d'aller dormir. Moi, je crois au contraire qu'il y a là une place à occuper, très engagée.
Merci.
C'est un peu impulsif, excusez-moi.
Sylvie ou Sandrine ou allez-y.
Moi, je serai brève. Hein. Oui. Je vais répéter ce que j'ai dit avant, mais en résumant. Si vous voulez déprimer, lisez Jean Barret. Si vous voulez espérer, lisez Damasio.
Bah, lisez les deux, puis comme ça, vous faites votre propre opinion. Sandrine ou Ludivine, quelque chose à ajouter? Non? Alors, une autre question? Oui? Ce sera la dernière, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Deux maximum. Allez-y.
Oui.
Réponse
Bonjour.
Très brève.
Alors... Moi, ma question, c'est que ben, quand on parle de la Commune de Paris ou de la guerre d'Espagne, par exemple, dans mon opinion, il y avait un dénouement très funeste à chaque fois. Et donc, c'est compliqué. Est-ce que... je trouve qu'on a rarement des exemples de fiction ou de révolution de lutte sociale qui sont faits dans la non-violence, par exemple. Et je pense par exemple à des inspirations comme Green Belt Movement, tous les mouvements écoféministes qui vont par exemple en Inde ou ce genre de mouvements qui se font au travers des arts et c'est des luttes sociales aussi dans la non-violence. Est-ce que vous connaissez des œuvres de fiction qui démontrent ce genre de révolution et de lutte sociale là?
Alors lutte sociale sans violence. Déjà, le malaise s'installe petit à petit. Difficile.
Alors, il y a des œuvres de science-fiction qui en parlent, mais c'est vrai que là, est-ce que ça va me...
Sans aucune violence, c'est difficile.
Ouais.
Et dans le public, est-ce que quelqu'un
oui,
pense
dans
à
le
quelque
public,
chose?
Les érudites et les érudits du public. Une œuvre de science-fiction qui se passe sans violence, il vous reste 10 secondes. 10, 5. Bon, ben, ce sera à chercher pour votre travail pour la prochaine fois. Tu l'avais?
Ah. Non, mais je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si absolument. Ça répond exactement à la question, mais il y a par exemple toutes ces histoires qui sont basées, mais c'est une forme de violence, en fait, sur la manipulation du langage. Je pense à Babel 17 de Zelazny.
C'est quand même de la violence.
Voilà, mais où en fait, il y a, disons, toutes les histoires qu'il y a dans la science-fiction où on va... pas exercer une violence physique, mais on va utiliser d'autres outils qui vont permettre d'imposer des choses à des gens sans avoir préalablement recueilli leur consentement, mais sa valeur est imposée sans qu'ils s'en rendent compte, et du coup ils auront consenti a posteriori, mais pas avoir été manipulé, quoi. Donc ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça. D'accord. Après, revenez peut-être me voir pour que je me remémore des choses un peu plus précises. Je me demande si En Terre étrangère, Dan Lyne...
Oui, un peu. Ouais. Je pensais à Révolte sur la Lune, mais il y a de la violence aussi.
Ouais.
Bien, eh bien, écoutez, un grand merci à mes quatre invités, mes quatre intervenantes. Il aurait fallu plus de temps, mais on a fait ce qu'on pouvait en l'heure qui nous était. Elles sont en signature aussi à la librairie. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Et bonne continuation. Merci.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales.